Salut et bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 6 d'Ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Autour de la table aujourd'hui, Christophe Buron et Didier Croix. Messieurs, bonjour.
Bonjour Manu, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour Manu, bonjour à toutes et à tous.
Alors au menu de cette émission, cette question, la défaite de l'ASM Clermont face à Toulon samedi au Michelin est-elle un simple coup d'arrêt pour les Auvergnats? On y répondra d'ici quelques petites minutes. Nous nous intéresserons également au déplacement des Clermontois, ce sera samedi du côté de Toulouse. Quelle équipe Christophe Furios doit-il aligner face aux champions de France en titre? Et enfin nous terminerons avec les traditionnels top et flop. Mais revenons au thème principal de ce podcast avec cette question. Peut-on parler d'un simple coup d'arrêt, messieurs, après la défaite de samedi face à Toulon, avant de développer un petit tour de table rapide, Christophe?
Simple, un coup d'arrêt, oui. Simple, l'avenir le dira.
Non, c'est pas un simple coup d'arrêt, non. Non, en
fait. Eh ben, on va.
Non, c'est pas un simple coup d'arrêt, non.
On va détailler. Tout ça, alors on va recontextualiser, l'ASM donc est resté sur deux succès de suite face à Bayonne et cette fameuse victoire à Montpellier, hein, succès à l'extérieur que les Clermontois n'avaient plus acquis depuis plus d'un an. Donc Clermont qui avait l'occasion d'enchaîner une troisième victoire samedi face aux Toulonnais, alors ce qui aurait été un petit exploit puisque ce n'est trois victoires de suite, c'est plus arrivé à Clermont depuis la fin de la saison 2021-2022. Mais patatras, voilà, Toulon est venu s'imposer au Michelin. Victoire 30-27 du RCT. La première défaite de la saison des Clermontois à domicile et la première défaite, premier revers au Michelin depuis le 1er janvier 2023. C'est vrai, on pensait, en voyant les deux dernières victoires, que l'ASM avait lancé quelque chose, avait créé quelque chose. On ne s'attendait pas, voilà, à cette défaite aussitôt, surtout face à une équipe de Toulon qui n'était pas l'équipe type. Et les Varois qui sont venus avec une équipe remaniée, il faut bien l'avouer.
On les pensait à l'abri de ça. Et c'est vrai que peut-être que le fait que cette équipe ait été remaniée, eh ben elle a dilué la notion de match piège qui pouvait exister sur cette rencontre et qui, à mon avis, n'a pas du tout été bien appréhendée par les Clermontois et le staff lors de cette semaine. Alors le Christophe Furios a endossé la responsabilité de l'échec en disant que la semaine avait été mauvaise pour tout un tas de raisons, notamment le stage à Vichy qui avait plus ou moins bien fonctionné, conditions climatiques. Mais je pense surtout qu'ils ont été vite bercés par le fait qu'ils venaient de gagner à Montpellier et de savoir, parce qu'ils l'ont su assez tôt dans la semaine, que Toulon allait venir avec une équipe remaniée, qu'ils allaient laisser beaucoup de cadres au repos. Donc ça a dû un peu lignifier un peu l'état d'esprit et voilà quoi.
C'est, je pense que Mignoni et le staff de Toulon ont finement joué le jeu en laissant entendre qu'ils laissaient filer le match.
Filer, je ne sais pas.
Non, mais ils l'ont laissé entendre par des signaux envoyés. On fera beaucoup de changements, on laissera les cadres au repos. Je suppose qu'en interne, le discours n'était pas du tout le même par rapport aux signaux qu'ils laissaient à l'extérieur. Et c'est les signaux laissés à l'extérieur qui, comme tu dis, ont été interprétés de manière consciente ou inconsciente comme pour dire que ce match allait être facile, alors que sûrement, ils l'ont montré, que en fait, les Toulonnais s'étaient préparés pour faire quelque chose de Michelin, quoi.
Mais pourtant, Christophe Furios avait alerté ses joueurs justement là-dessus en disant en conférence de presse, si on prend le melon
insidieux,
après...
C'est insidieux.
Il a dit la veille, mais est-ce que dans la semaine, ça a été bien expliqué et appréhendé par les joueurs? J'en sais rien, je ne sais pas sûr. Mais c'est vrai que... Alors peut-être que Mignoni, en effet, comme Didier, a laissé entendre que... Avec cette composition d'équipe, la fin de carrière, d'Alan Wynne-Jones. Mais je pense qu'ils s'en sont servis justement de levier en disant c'est le dernier match d'une légende de ce sport. On va se mettre à 120% et on va faire tout ce qu'il faut pour essayer de faire un gros résultat à Clermont. Et ça, les Clermontois ne l'ont pas vu venir. Et c'est vrai que leur apathie en première mi-temps peut expliquer cette rencontre et le scénario qu'on a vu.
Oui, parce qu'il y a eu cette première mi-temps quasiment sans énergie. Il y a eu cet éclair de Yato assez tôt dans le match avec cet essai. Et derrière, c'est vrai que Clermont a beaucoup joué, a beaucoup subi, a beaucoup joué dans son camp, en fait.
Je rajouterais un élément. On ne va pas faire de la psychologie de drugstore, mais je pense aussi que la victoire à Montpellier a peut-être aussi diminué l'exigence de motivation en oubliant que c'est bon, c'était parce que aller gagner à l'extérieur c'était arrivé depuis longtemps et que ça commençait effectivement à peser, mais en oubliant qu'ils étaient les gagnés chez le dernier et donc il fallait aussi quelque part il aurait fallu aussi relativiser cette défaite,
cette victoire
chez le dernier du top 14, chez une équipe qui était à la rue quand même. Donc C'est vrai qu'elle était importante, c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de bien, mais est-ce que ça voulait dire autant de choses que ça, en termes de contenu, en termes de niveau? Peut-être qu'il est là et il aurait fallu aussi relativiser ce succès qui était important et indispensable. Hein, la question n'est pas là.
Succès qui a fait du bien, mais qui est effacé aujourd'hui par cette défaite à domicile derrière. Bah,
complètement, c'est un retour à la case départ avec un zéro pointé au classement britannique. Donc ils ont perdu tout le bénéfice, en effet. Ouais, c'est pour ça que c'est un coup d'arrêt. Alors est-ce que c'est vraiment un simple coup d'arrêt? Bah, j'ai envie de dire qu'on rendez-vous dans 15 jours. Après les deux prochains matchs qui vont clôturer le bloc qui est en train de se dérouler sur le top 14, parce qu'après le Racing, on va enchaîner sur les compétitions européennes. Donc on pourra dire si c'est un simple coup d'arrêt ou si ça rebondit.
Mais ils avaient pris un petit joker en allant gagner en Vélie, ils n'ont plus ce joker. Et d'ici la fin de l'année, les deux déplacements qui se profilent, c'est Toulouse. Samedi, on sait ce que ça, c'est un col de première catégorie, voire hors catégorie. Et Pau, juste avant la Noël, qui sera pas facile non plus, enfin qui sera forcément difficile. Quoi. Donc,
Pau, justement, l'ASM aurait pu revenir à la hauteur des Palois au classement en cas de victoire. Clermont qui aurait pu s'installer un peu plus durablement dans ce top 6. Clermont qui est toujours 6e avec 19 points.
Enfin, je t'interromps, ils étaient premiers. Avec 3 points de plus, la victoire, ils étaient à égalité avec le Racing, Stade français. Enfin, c'était vraiment une très très bonne opération.
Tu disais, Didier, pour toi, c'est plus qu'un coup d'arrêt. C'est au niveau du contenu
Non, le contenu, pour tas de raisons, on peut même pas parler de mauvais match, parce que c'est un match où il a manqué à mon avis beaucoup de choses dans tous les domaines. On ne peut pas dire qu'ils sont complètement passés à travers. Il n'y a pas eu de joueurs qui sont passés à travers. Il n'y a pas eu de domaine où ils ont été à la rue. Mais ça a été, ils étaient en deçà. Quoi. Donc, c'est pas c'est un très mauvais résultat. Ce n'est pas forcément un très mauvais match non plus. Mais ce n'est pas un simple coup d'arrêt, parce que ça a des répercussions, comme vous disiez tout à l'heure, considérables en termes au niveau comptable et par rapport aussi à ce que, jusqu'à présent, Clermont a été capable de montrer à l'extérieur. Ils sont allés gagner à Montpellier. Je disais, mais ça reste le dernier. Est-ce qu'ils vont être capables d'aller gagner à l'extérieur d'autres matchs? Ça, pour l'instant, c'est l'inconnu. C'est l'inconnu face à des équipes avec qui ils seront en concurrence directe. Là, c'est un concurrent direct qui est venu gagner chez eux. Est-ce que Clermont va être capable d'aller gagner? Parce que ça va être obligatoire maintenant d'aller gagner. Enfin, obligatoire. On sait jamais comment va se goupiller la saison, mais ils vont probablement être obligés d'aller quérir une ou deux victoires chez les concurrents directs. Pour l'instant, jusqu'à présent, Clermont n'a pas montré qu'il était capable de le faire. Le sera-t-il dans quelques semaines, dans quelques mois? Là, c'est l'inconnu pour l'instant.
Ce qui est quand même assez frappant sur ce match, c'est physiquement, le combat physique qui a été remporté.
Alors,
c'est peut-être le domaine
c'est vrai qu'il
où
a manqué,
Clermont le plus pêché, entre guillemets.
Il a manqué beaucoup de choses. Et puis moi, j'ai revu le match bien attentivement, notamment en première mi-temps. Il y a des joueurs qui ont manqué d'impact physique de manière flagrante. Hein. Il y a eu est-ce que c'est un niveau de vigilance qui n'a pas été atteint dans la semaine et qui fait que ces joueurs-là sont un peu assoupi entre guillemets sur cette rencontre, on ne sait pas, mais oui, il y a des joueurs qui ont manqué d'impact et ça a pesé face à une équipe de Toulon qui est venue sans complexe et qui, même si elle avait fait tourner, je prendrais rien que l'exemple de la deuxième ligne, entre Win Jones, le Gallois, et Ribans, l'Anglais, il n'y a pas eu photo, quoi. Ils ont vraiment dominé de la tête et des épaules aux impacts, dans les duels, et puis la guerre qui a été faite au sol, elle a été remportée très largement par les Toulonnais. Donc clairement, on n'a pas répondu présent dans le défi physique, ça c'est clair.
Oui, clairement, qui a beaucoup plus franchi que les Toulonnais, mais le soutien avait toujours du retard derrière, et ce qui a entraîné ces pénalités, ces fautes au sol, ces ballons perdus au sol.
Ouais. Cette incapacité à mettre la main sur le ballon aussi, par un jeu au pied qui était, à mon sens, assez défectueux, tant en longueur que dans le choix stratégique, en optant souvent pour un jeu de pression. Et à la pression, à la retombée, les Clermontois n'ont jamais été dominateurs pour récupérer des ballons frappés par eux-mêmes. Ils n'ont jamais récupéré des ballons, ces bons ballons, étaient très bons là-dessus. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que, effectivement...
C'est un des défauts récurrents d'ailleurs sur les ballons aériens. Je trouve que les Clermontois ont vraiment du mal à s'imposer tout simplement, à régner un peu dans les airs. Il manque de joueurs vraiment capables d'aller matcher en haut, là, dominer sur les ballons aériens, que ce soit de la pression
le nombre de fautes où Delgui était présent, mais il a fait beaucoup d'en avant, donc des ballons qui sont revenus, qui ont été rendus au Toulonnais. Donc c'est vrai que alors ce jeu au pied était aussi, ça a été une des raisons, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup
d'autres. Le jeu au pied
aussi, il faut dire que moi je me trouve le match remarquable des Toulonnais, hein, qui ont fait en termes de défense, d'investissement, enfin, qui ont fait le match pour gagner, quoi. Mmh. Enfin, un match qui se sont donné les moyens de gagner. Ce qui est, et puis ils ont été récompensés à juste titre. À juste titre.
Alors, le point positif, tu disais que tout n'était pas acheté sur ce match, c'est cette dernière action, entre guillemets, on peut évoquer le caractère des Clermontois, qui, on le rappelle, ont eu la balle pour aller chercher la victoire. Il y a eu une cette pénalité où ils auraient pu aller chercher le match nul, ils ont voulu aller en touche pour aller marquer un essai et aller chercher les 4 points de la victoire. Il y a ce caractère, cette balle, cette dernière possession de plus de 5 minutes où ils partent de leurs 22 mètres. Christophe Rios a dit qu'ils auraient pu créer quelque chose.
Ils ont traversé le terrain. Pardon, ils ont traversé le terrain. Ils ont échoué sur la ligne carrément. Hein. Après, c'est vrai que pour avoir revu cette action-là, on se pose la question pourquoi il n'y a pas un joueur ou deux qui sont capables de perforer quand on joue à 50 cm. Il a fallu 30 secondes à Toulon pour percer la défense en sens inverse 5 minutes avant, quoi, pour faire la différence. Il a manqué à ce moment-là un ou deux porteurs de balles et puis des choix judicieux. Bon,
Yato était sur le banc à ce moment-là.
Yato était sur le banc. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu le faire rentrer? Enfin, est-ce qu'il, voilà, à mon sens, il ne fallait surtout pas écarter les ballons, ce qui a été fait. Parce que ne serait-ce qu'écarter un ballon quand vous êtes à 50 cm d'un but, c'est déjà admettre que vous allez perdre du terrain. Alors, comme les passes n'ont pas été très bien ajustées.
Une occasion, une fois, où la passe arrivée à Delgui était trop lente et a mis.
Ça permet à la défense. C'est favorable.
Il a pris à l'arrêt, c'était fini, quoi. Donc,
oui, la défense est favorisée dans ces moments-là. Donc, cette action, oui, elle est intéressante par le caractère de vouloir renverser la table une dernière fois à la sirène, mais à la sortie, ils n'y sont pas arrivés.
Alors, tu parlais du coaching, effectivement, il y a quelques instants. Le coaching, justement, Christophe Furios avait dit avant le match que ça allait se jouer après la 65e minute de jeu, le dernier quart d'heure allait être important. On a vu Christophe Furios coacher très tôt. Étienne Falgou est sorti dès la 34e minute. Moala et Fritzli sont sortis à la mi-temps. Il les a fait revenir ensuite sur le money time, entre guillemets, comme diraient nos amis basketteurs.
Thibault Lanin est sorti.
Il y a eu 3 joueurs qui ne sont pas rentrés, à contrario. Il n'a pas fait tous ces changements. Quel regard vous portez-vous sur le coaching de Christophe Furios sur ce match? Alors, il a expliqué après le match qu'il a voulu à la mi-temps sortir certains cadres. Il
disait qu'ils avaient
été plus mauvais que les autres, mais pour réveiller le groupe, qu'est-ce que vous en pensez?
Il a dit qu'ils n'avaient pas été plus mauvais, mais il avait dû quand même juger qu'ils étaient en deçà de leur performance pour les sortir. Sinon, ils n'auraient pas sorti, il faut être clair, quoi. Donc, qu'il ait eu à ce moment-là, à la mi-temps, dans l'esprit de les remettre assez tôt, parce qu'il les remet assez tôt, hein, il les remet à la 59e. Hein. Mais ça reste quand même un coaching un peu énigmatique, quoi.
Est-ce que c'était préparé à l'avance? Je sais pas.
Pas avant le match, mais le déroulé du match lui fait faire ce coaching-là. Celui de Falgou à la 33e, bon, je ne l'ai pas trop compris, mais voilà, quoi. Donc oui, c'était assez curieux comme stratégie, mais on ne m'enlèvera pas de l'idée que s'il sort Fritzli et Moala à la mi-temps, c'est qu'il n'en était pas complètement satisfait.
Oui, ça aussi. On va pas sortir des joueurs qui dominent. Qui...
Tout à fait, tout à fait.
Est-ce que cette défaite à domicile, qui arrive assez tôt dans la saison, malgré tout, puisqu'on rappelle, hein, la saison a été perturbée avec cette Coupe du Monde, est-ce que ça peut envoyer aussi un message aux autres équipes en se disant
forcément,
attention,
ouais,
parce qu'avec cette défaite, on va voir ce que fera l'ASM Toulouse, l'ASM à Toulouse samedi, on va l'évoquer d'ici quelques petites minutes. Derrière, il y aura la réception du Racing. S'il y a un mauvais résultat à Toulouse, il y aura pression sur les Clermontois pour recevoir le Racing.
Forcément, oui, tout à fait. Ouais. Après, bon, une défaite à domicile, bon, tout dépend. Enfin, combien de clubs ont préservé leur l'invincibilité cette saison sur leur terrain, on ne sait pas encore. Mais c'est vrai que ça peut aussi donner des idées. Après, ça dépend du timing. Le Racing va venir dans 15 jours, une semaine avant d'attaquer la Coupe d'Europe. Tout est possible. Mais c'est vrai que de toute façon, ce n'est pas un bon signal, oui. Enfin, pour le club lui-même, de s'incliner à domicile, ça n'a jamais été une bonne opération.
C'est surtout par rapport à eux, quoi. Enfin, par rapport à Clermont, ouais. Par rapport à sa situation, à son compte en banque comptable, quoi. C'est, par rapport aux autres, bon, après, c'est des choses qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Mais dans quel état d'esprit va venir le Racing qui est gagné au Stade français,
ouais. Racing premier ex aequo, du coup.
oui, effectivement, il y aurait la perspective de la Coupe d'Europe.
Un coach qui va préparer un déplacement à l'ASM ne peut pas se baser sur ce match-là, parce qu'il ne sait pas dans quel état d'esprit va être l'ASM dans 15 jours, dans un mois. Enfin voilà, quoi. À l'instant T de ce match.
Les contextes seront différents.
Voilà. L'ASM était en dessous. Maintenant, est-ce que ça sera le cas contre le Racing plus tard, et notamment contre Bordeaux avant le premier de l'an, ça, on n'en sait rien.
Et Christophe Furios, en tout cas, qui a concédé sa première défaite au Michelin, car depuis son arrivée, il était sur une série de 8 victoires, dont 5 bonifiées, série donc qui a pris fin ce samedi. Merci messieurs, c'est la fin de ce thème principal. On va enchaîner maintenant avec le deuxième partie de ce podcast et ce déplacement à Toulouse. Alors on l'a dit, hein, cette défaite face à Toulon qui intervient avant ce déplacement du côté d'Ernest Vallon et la réception du Racing, ce sera le premier week-end de décembre. Ensuite, il y aura la première parenthèse européenne, Challenge Cup, qui débutera. Alors, cette question toute simple, messieurs, quelle équipe doit aligner Christophe Furios sur la pelouse d'Ernest Vallon? Tu en as parlé un petit peu dans les colonnes de la montagne ce lundi matin, Christophe. On le sait, il y a eu des cadres qui ont beaucoup joué ces dernières semaines. Va-t-il les laisser au repos? Avec cette défaite, faut-il mettre une équipe compétitive pour essayer d'aller chercher quelque chose à Toulouse? Toulouse qui reste sur une défaite à Castres. Voilà, c'est les questions qu'on peut se poser en ce début de semaine.
Alors à chaud, il a laissé entendre qu'il avait changé d'avis par rapport à ses prévisions. Il l'a dit, qu'il avait prévu des plans et qu'il avait prévenu les gars que ça pourrait être modifié. Aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il ait changé radicalement de position. Alors est-ce que ça peut être... Il ne fera pas l'impasse. Il avait probablement prévu de faire une équipe où des joueurs en manque de temps de jeu auraient pu être alignés. Il allait relancer, il l'a annoncé, il y aurait Simonet au centre. Il va probablement lancer pour de bon Pitagus Sobrecula. Après, pour le reste, moi je le vois mal prendre le risque de faire enchaîner notamment ceux qui ont beaucoup, beaucoup joué. Je pense à Fainga, au Talon, à Simons, Urda Pileta, qui n'ont quasiment pas été coachés sur les derniers matchs. Hein. Et moi je me projette plus sur le Racing, quoi. Et là, est-ce qu'il peut prendre le risque d'aller les griller un peu plus avant cette réception du Racing qui va être capitale, hein, faut appeler un chat, après cette défaite contre Toulon? C'est à voir, mais je suis pas certain qu'il change vraiment ses plans.
Il y a un deuxième paramètre après celui de la gestion physique des joueurs, c'est celui des GIF, où là, clairement, est en déficit. Et il va falloir aussi prendre un petit peu d'avance par rapport à la comptabilité requise et aux exigences requises par le règlement. Et donc, ce déplacement à Toulouse peut être aussi l'occasion de se remettre un petit peu dans les clous et au-dessus de la ligne de flottaison par rapport à ce qui est demandé.
En petit aparté, on fera une émission spéciale GIF. On va vous préparer ça pour les prochaines semaines. Il y a beaucoup de questions. Vous nous avez demandé d'ailleurs savoir s'il serait possible de faire un podcast là-dessus. On le fera dans les prochaines semaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'ASM a du retard au niveau GIF. Alors, il peut y avoir, si l'ASM n'est pas dans les clous à la fin de la saison, il peut y avoir une sanction financière, voire une pénalité sportive derrière
pour la saison d'après.
Pour la saison prochaine.
Mais pour revenir à ce match à Toulouse, d'autant plus qu'en termes de GIF, il a déjà annoncé qu'il ferait jouer Sowakula et Simonet, qui sont des non-GIF. Donc voilà, déjà, ça part pas sur un bon pied. Mais alors, il a une possibilité, c'est de faire une équipe mixte, avec un banc de touche qui, s'il y a vraiment une ouverture qui se crée en première mi-temps, on ne sait pas, une équipe qui soit capable de jouer le coup jusqu'à fond, jusqu'à la dernière minute à Toulouse, pourquoi pas. Mais ça me paraît quand même assez aléatoire dans la mesure où, en plus, Toulouse vient de perdre à Castres, n'a pas la marge de manœuvre suffisante et qu'elle avait l'année dernière. Et on sait pourquoi. La Coupe du Monde est passée par là. Il y a plus d'une dizaine de joueurs sollicités qui n'ont pas visiblement repris le rythme qui était le leur, enfin qui devrait être le leur en temps normal, vu le potentiel de ces garçons. Je pense notamment à Antoine Dupont. Donc ça serait étonnant quand même que Toulouse bâcle ce match et ne lève pas non plus les curseurs avec la réception de Clermont.
Toulouse qui est 7e, donc premier poursuivant derrière les Clermontois, 7e avec 18 points au compteur.
Voilà. Ouais, donc c'est un match pourtant pour les deux, quoi, du coup. Parce que
tout à fait.
Ils sont en concurrence directe. Il y a un aspect aussi qui va être sûrement pris en compte. À certains postes, il n'a malheureusement pas beaucoup de solutions. Je pense au poste de talonneur, où Fourcade n'avait pas repris l'entraînement encore la semaine dernière. Donc, il ne sera probablement pas opérationnel pour Toulouse. Bérégaray non plus. Boudou, visiblement, est placardisé.
Oui, mais pour sortir là, par contre, je vois bien Boudou, moi, être aligné à Toulouse. Comme il a ressorti Bibi, qui n'était pas non plus, Bibi Bizibou, qui n'était pas trop.
Mais il a jamais été encore dans le groupe, Boudou.
Non, parce que bon, il n'a pas joué depuis 6 mois. Moi, je vois bien.
Et au poste de pilier droit, où bon,
compliqué.
Quito est un bon joueur dans le jeu, mais en mêlée, il manque encore. Il est un peu tendre, il n'a pas le niveau requis pour le top 14. Hein.
Alors, il y a une stat qui est assez frappante, c'est celle que tu as donnée ce matin dans les colonnes de la montagne, Christophe. C'est sur les 4 derniers matchs, il y a 11 joueurs qui ont enchaîné ces 4 matchs. On va les citer: Falgu, Slimani, Fainga, Simons, Lee, Yato, Tixeron, Urdapileta, Delgui, Erito et Moala. On s'aperçoit que Christophe Furios, quand même, s'appuie depuis la reprise, hein, depuis ce match à Lyon, sur une ossature. C'est aujourd'hui, selon lui, l'équipe type du moment là, qu'il a.
Je ne suis pas certain, non. Au centre, par exemple, je ne suis pas sûr qu'un garçon comme Erito ne soit pas remplacé par un Fouissac tout de suite là, pour aller à Toulouse, par exemple. Surtout qu'il y a Sibonnet. Est-ce qu'il va mettre Moala au repos? Moala qui a enchaîné aussi.
Oui, il fait partie de ces 4 joueurs, effectivement. Sur un joueur,
pardon. Il y a des postes plus... Enfin, un peu plus critique que d'autres. L'ouverture aussi en est un. Est-ce qu'il faut faire jouer Urdapileta quasiment 80 minutes à chaque match? Ça, c'est quand même prendre un risque, hein. Un garçon qui a quand même 37 ans. Est-ce qu'il va remettre Bello en selle, et sans parler de Jules Plisson? Donc voilà quoi. Donc,
on pose des liens où il n'y a pas beaucoup de solutions non plus. Hein. Raka, Delgui et Jurand. Mais Jurand était encore blessé ce week-end. Donc est-ce qu'il sera rétabli pour faire un petit turnover? C'est des postes où il a pas beaucoup de solutions de remplacement quand il y a un joueur blessé, quoi.
Et des blessés, l'ASM.
Il n'y en a pas tant que ça, des blessés.
Quelques-uns.
Quelques-uns, ce qui est.
Ces dernières saisons, il y a eu pire. Hein.
Oui, là, ils sont dans une.
On a connu pire.
Oui.
Ben, parfait. Merci, messieurs. On approche de la fin de ce podcast. On va se quitter avec les traditionnels top et flop. Messieurs, un top ou un flop après ce week-end rugbystique? Didier.
Eh bien, moi, ce sera un top pour Oyonnax qui dans ce qu'on appelle un derby, a battu le Loup, là, 38-20 à domicile. Ce qui leur permet de sortir de la zone rouge et puis d'aligner une troisième victoire à domicile après celle contre l'ASM et contre le Stade Rochelet. Donc, 3 grosses équipes hein, qui, a priori, étaient inférieures à Oyonnax. Mais bon, dans la lutte pour le maintien, puisque c'est leur seul objectif de la saison, et ben c'est des victoires qui vont compter cher à la fin de la saison.
Ouais, 6 points d'avance sur Montpellier, dernier, et 4 sur Perpignan, le 13e. Christophe?
Mon top, ça va être pour le jeune ouvreur de La Rochelle, Hugo Ross, qui a fait une entrée pour moi tout nutriente hier soir contre Bordeaux. Il y a eu un changement de... les mouches ont changé d'âne dans ce match. Alors que Bordeaux semblait tenir l'affaire, 21-8, après avoir marqué 2 essais en seconde mi-temps. Et puis, O'Gara a changé complètement sa carrière, a sorti Carbarlo et Astoy pour faire rentrer Iri Barren et ce jeune ouvreur de 19 ans que je trouve absolument épatant, qui a un culot monstre, qui semble hermétique à la pression. Il a juste raté une pénalité parce qu'il venait de prendre une cartouche terrible par Moefana à un moment, là, un peu dans les règles, hein, mais ça l'avait un peu secoué quand même. Mais sinon, il a un coup de pied phénoménal, une longueur, une précision. Et on sent qu'il sent le rugby. Enfin bon, c'est 19 ans, champion du monde avec l'équipe de France. Il faisait la paire avec Baptiste Jauneau et on comprend mieux pourquoi l'équipe de France a performé avec cette charnière-là. Donc bravo à lui parce que c'est vraiment un ouvreur d'avenir. Et c'est vrai que bien des clubs voudraient être à la place de La Rochelle et d'avoir un Antoine Astoy et un Hugo Ross dans son effectif.
Ouais, une belle génération qui se profile. Une bonne nouvelle pour le rugby français. Ben merci messieurs de m'avoir accompagné dans cette émission. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, belle semaine à tous. Salut.
Merci.
Au revoir.